C'est les princes de la truelle, les charpentiers de l'impossible. Y a pas une faute de goût.
Ah, on voit qu'on est chez des artistes.
C'est le Mixture, la musique au mixeur sur Principe Active.
Bonsoir à vous, amis mixturiens et mixturiennes. Bienvenue dans le Mixture épisode 9, saison 2. Ce soir, après être passé par New York, le Mexique, l'Allemagne, l'Éthiopie, la Turquie, notre aéronef radiophonique fait escale à la Nouvelle-Orléans. Bonjour à vous, Mr. Guise, et bonsoir à vous, le Doc. Comment allez-vous ?
Bonjour et bonsoir également.
Bonsoir, j'ai réussi à sortir enfin.
Vous êtes sorti de votre donjon, pour rappel, prisonnier la semaine dernière.
Vous m'avez lâchement enfermé en me faisant écouter du Tarkan pendant toute une semaine. Voilà, je vous avouerai que j'ai compris la leçon.
On pensait avoir jeté la clé, mais en fait, vous avez dû la retrouver.
Bah oui, vous m'avez ouvert que ce matin. sans manger, sans boire. Hein.
Est-on prêt pour une nouvelle émission et pour égayer notre semaine pluvieuse, messieurs ?
On va bien voir.
On va bien voir.
Mais est-on prêt ? On sait jamais.
On va pleuvoir aussi.
On va vanter.
C'était pas terrible, ça.
Je rebondis pas là-dessus.
Ce Guise, ce soir, vous nous parlerez de vampires, c'est bien ça ?
Ouais, j'aime bien.
D'accord, très bien. Le Doc, quant à vous, vous nous parlerez de brume et d'électricité ?
Tout à fait, de Bertrand Tavernier. Oui.
D'accord,
de cinéma ?
Ah oui, de cinéma. Cinéma, oui, c'est ça. Pardon. Cette semaine, direction la Nouvelle-Orléans, donc, est la saveur de son melting pot culturel, afro-américain, créole, latino ou cajun, vivent tous ensemble depuis des siècles. Cette ville unique, isolée et souvent oubliée, comme lors de l'ouragan Katrina, a vu naître notamment les brass bands à l'origine du jazz et du funk. On prendra donc le temps de vous faire partager et découvrir, peut-être découvrir certains de ces artistes qui ont fait la richesse et qui font encore la richesse de cette ville si singulière. Et puis, avec nos chroniques, nous vous parlerons du quartier mythique de Trémé, de la série du même nom, de traditions séculaires, de légendes donc, et de cinéma. On vient d'en parler un petit peu. On va commencer tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un des grands monsieur de la Nouvelle-Orléans. On s'écoute ça, puis on revient juste après. Vous êtes bien dans le Mixture, il est bien 18h, on est ensemble jusqu'à 19h30.
À tout de suite. Taquet.
Et on est au taquet, c'est bien vrai. We'll be right back.
Armstrong, Indiana.
Excusez-moi, maestro, je saluais des amis philosophes.
Voilà. Alors, je disais Louis Armstrong, mais je me suis trompé, on prononce ça la française. C'est Louis Armstrong. Alors, Louis Armstrong, aussi connu sous les noms de Satchmo, pour Satchel Mouth, littéralement bouche, sacoche, ou Pops. C'est un musicien américain de jazz hein, que tout le monde connaît forcément. D'une musique de folklore afro-américaine enracinée dans le gospel et le blues traditionnel et enfermée dans un terroir, Armstrong en a fait un courant musical national et populaire à vocation universelle. Son talent de trompettiste, son charisme, ses qualités de showman et sa personnalité généreuse ont forgé au fil du temps sa renommée internationale. Il crée un nouveau style vocal, le scat, qui fit de lui l'un des chanteurs de jazz les plus influents de son époque. Et donc, ça reste quand même le meilleur ambassadeur du jazz à travers le monde entier.
Sûrement l'artiste jazz le plus connu.
C'est le plus grand.
Le plus connu au monde. Très bien, Louis Armstrong, pour commencer cette émission consacrée à la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'on a, posé des bases solides.
Il va falloir assurer derrière.
Voilà. Je vous propose qu'on enchaîne.
Oui.
Avec un titre, on ne va pas en dire trop
un
tout de suite.
Un petit mélange.
Juste le titre s'appelle Petite Fleur, c'est bien ça?
Tout à fait.
Un morceau choisi par vous-même, le doc. Petite Fleur, moi ça m'inspire beaucoup de choses. On va voir ce que ça dit, on revient tout de suite.
Caché, mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Prends ce présent que j'ai toujours gardé, même à 20 ans, je ne l'avais jamais. N'aie pas peur, cueillis au fond d'un cœur, une petite fleur, jamais ne
Petite Fleur.
C'est bien trop court. Le chanteur, c'est Marcel Mouloudji. La musique est de Sidney Bechet. D'où le lien.
Pardon, ça vous agresse hein.
Non, non, du tout.
Excusez-moi.
D'où le lien avec la Nouvelle-Orléans. Donc, j'ai préféré vous parler plutôt de Sidney Bechet, donc, qui est né à la Nouvelle-Orléans en 1897, au sein d'une famille d'origine créole. Il apprend la clarinette auprès de Luis Papatillo et de Lorenzo Tillo, avant de rejoindre Chicago en 1917, puis Londres, où il découvre le saxophone soprano, avec lequel il peut plus facilement produire le vibrato qui caractérise son style et qu'on entend bien dans ce style de musique. Il connaît une carrière chaotique, compliquée par son caractère et pas mal d'histoires de bagarres. À l'issue de l'une d'elles, notamment, il tire sur un musicien et passe 11 mois en prison à Fresnes.
C'est pas rigolo. Voilà.
Bon, il est pas mort, hein, mais 11 mois de tôle quand même.
Ouais.
Il fera une grande partie de sa carrière en France, participant d'abord à la Revue Nègre aux côtés de Joséphine Baker. Et il s'installe définitivement en France à partir de 49. Il produit pas mal de succès mondiaux, dont ce thème là, Petite Fleur, qu'il crée en 52 et qui est chanté ici par Marcel Mouloudji en 59.
Marcel Mouloudji, on peut peut-être en dire quelques mots. Vous me disiez hors antenne que voilà, c'était un métis de quelle origine ?
Algérien, il me semble.
Algérien.
Et voilà, qui a fait carrière sous le nom de Mouloudji, comme quoi.
C'est quelqu'un de, ouais, qui est décédé maintenant, mais ouais. C'était dans les années quoi, années 30.
Je pense qu'il est né dans les années 30, ouais.
D'accord, donc il a connu le succès dans les années.
Dans les années 50.
50 en France et.
Enfin, qui a commencé très jeune puisqu'il a fait du cinéma même enfant. Enfin, c'est une histoire assez compliquée, l'histoire de Mouloudji. Mais oui, c'est les années 50.
Et donc il a eu cette chance de jouer avec. Avec Béchette.
Alors il a repris un thème de Béchette.
Ils n'ont jamais joué ensemble. Ouais.
Je crois pas.
D'accord.
Mais non, intéressant de croiser les styles et les influences.
Tout à fait. Et puis une passerelle évidente entre les États-Unis et l'Europe via la Nouvelle-Orléans. Et
pas mal d'artistes noirs américains qui sont venus dans ces années-là s'installer en France et qu'ont fini leur carrière chez nous.
C'est vrai. On va s'attaquer maintenant à un monsieur assez connu qui a posé les bases du rock'n'roll. Je vous en dis pas plus, on s'écoute d'abord.
C'est du fat.
C'est du fat. On s'écoute d'abord un titre et puis on revient juste après. Vous êtes dans le Mixture, 18h15, pas tout à fait. Et on est là jusqu'à 19h30 tous ensemble avec Monsieur Guise et le Doc et moi-même le Kid. Ben voilà, pour parler de la Nouvelle-Orléans, ville mythique s'il en est aux États-Unis, sur l'embouchure du fleuve Mississippi.
Décidément pas à faire la trompette, moi.
Ah, c'est dur, hein. C'est dur à faire à la bouche. Vous l'avez sans doute reconnu, Fats Domino, un autre grand monsieur de la nouvelle ouais, gros monsieur de la nouvelle Orléans avec le titre Fat Man tout simplement. Antoine Dominique Domino, c'est ça son vrai nom. Alors ce morceau là je l'ai trouvé sur une compile en 3 CD qui s'appelle The First Rock and Roll Records. Je vous la conseille si jamais voilà, vous intéressez aux prémices du rock'n'roll des années 30 jusqu'aux années 50 à peu près. Ça retrace toute cette histoire-là. Il y a tous les plus grands, notamment Fats Domino. Voilà, donc pour faire court sur ce monsieur-là, il est né en 28, évidemment, à la Nouvelle-Orléans. Chanteur de rhythm and blues, pianiste, c'est l'inventeur du boogie-woogie, cette fameuse expression qui a été reprise un peu plus tard par des chanteurs français, notamment.
Eddie Mitchell.
Et voilà, merci. Et que dire de plus, voilà, outre Fat Man, le morceau qu'on vient d'écouter, il est l'auteur d'un des premiers rock'n'roll qui est Ain't That a Shame. Et sans doute le plus célèbre interprète d'une ballade qui s'appelle Blueberry Hill. Voilà, Fats Domino avec le morceau Fat Man, une base également solide et...
Un genre de super-héros du jazz, Fat Man.
Exactement, voilà, c'est vrai. Bon, j'envoie la suite. Hein,
du coup.
La suite est sonore.
Dans les temps anciens, on avait pour coutume de poser de lourdes pierres sur les tombes des défunts pour éviter que leurs âmes ne se mettent à errer et à tourmenter les vivants. J'ai longtemps considéré cette pratique comme étant le fait de peuples primitifs et superstitieux, mais j'allais bientôt découvrir que les morts peuvent planer à la lisière de notre vision, telle une brume dense et lumineuse, et que leurs droits sur cette terre pouvaient être aussi légitimes et tenaces que les nôtres. J'espère que cette pauvre fille était déjà morte quand il s'est mis à la charcuter.
Cette pauvre fille n'a pas eu beaucoup de chance, Dave.
C'était la scène d'ouverture de Dans la brume électrique, un film de Bertrand Tavernier. Scène d'ouverture française de ce film, qui est sorti en 2009. Et qui est une adaptation d'un polar de la série de James Lee Burke, dont le héros est Dave Robichaud, qui est joué ici par le jovial Tommy Lee Jones. Dont le titre complet du film, du livre, pardon, est Dans la brume électrique avec les morts confédérés. Comme nous venons de l'entendre, tout commence par la découverte d'une pauvre fille qui n'a pas eu beaucoup de chance. En effet, cette jeune prostituée à la vie déjà peu enviable est retrouvée morte et mutilée en plein cœur du bayou Teche. Qui est l'un des plus grands bayous de Louisiane. C'est Robichaud, un vieil inspecteur alcoolique repenti qui est chargé de l'enquête pour la police de New Iberia. Rapidement, il fait la connaissance d'Elroy Sykes, comédien à succès, qui l'interpelle roulant en état d'ivresse au volant de sa Ferrari. Afin d'échapper à la garde à vue, celui-ci lui avoue avoir découvert un cadavre aux confins du bayou, non loin de la rivière Atchafalaya. Pas n'importe quel cadavre, un ancien dont il ne reste que les os et qui a dû être mis au jour par Katrina. Ce n'est pas tout, une chaîne lui entoure la cage thoracique et un de ses tibias est coupé en deux.
Voilà que,
oui, on est toujours content de tomber là-dessus quand on se balade. Voilà qui rappelle des souvenirs à Robichaud qui, à l'âge de 17 ans, a assisté à l'assassinat d'un jeune noir dans le bayou. À l'époque, aucun policier n'a voulu le prendre au sérieux. Il mènera donc de front ces deux enquêtes qui finiront évidemment par se recouper, croisant d'anciens collègues reconvertis, de riches investisseurs locaux, un mafieux de retour au pays pour investir dans le film en tournage, Julie Babyfeet Balboni, qui est jouée par l'énorme John Goodman. On est ici au cœur d'un polar noir. Il n'est pas question de théorie du complot, de traque sur internet, mais de crimes tout ce qu'il y a de plus vil, de bassesse, de misère, de bêtises quotidiennes, de racisme, d'alcoolisme, etc. Le héros lui-même, Dave Robichaud, est loin d'être un saint, il n'hésite pas à cogner et à s'arranger avec la loi pour faire progresser son enquête. Mais ce n'est pas tout, on est en Louisiane, il y a ses paysages d'abord, puis sa musique jazz et blues, ses légendes et son étrangeté enfin. Car Sykes, l'acteur, décrit rapidement à Robichaud les visions qui s'imposent à lui, d'un général de la guerre de sécession qui traîne avec ses troupes dans le bayou, et qui en connaît un rayon à la fois sur la vie des protagonistes et sur la vie en général. Le général ne tardera pas à apparaître à Robichaud sous l'effet du LSD d'abord, vous verrez en voyant le film pourquoi il prend du LSD, puis dans de multiples occasions ensuite, le guidant à travers les brumes de son enquête. Tavernier réussit ce film américain aidé par des acteurs investis, Tommy Lee Jones notamment, qui a proposé au moins une scène du film. Des acteurs impeccablement choisis, Jones tout d'abord en taiseux justicier toujours à la limite, Goodman également en abruti qui se croit au-dessus des lois, et le couple Peter Sarsgaard Kelly MacDonald qui joue Sykes et sa copine actrice. Lui est parfait en alcoolique tête à claque mais attachant, et elle en amoureuse désemparée de l'autre côté. La caméra de Tavernier quant à elle s'applique à rendre l'ambiance particulière du film, pesante et moite comme le bayou, et n'hésite pas à nous laisser dans le brouillard plutôt que d'expliciter chaque nouvel événement. Il existe deux versions de ce film. C'est un cas d'école pour les réalisateurs français qui veulent réaliser aux États-Unis. La première est sortie là-bas, directement en DVD. C'est le montage final du producteur. Et la seconde, c'est la version sortie au cinéma ailleurs dans le monde, qui est montée par Tavernier, qui était en désaccord complet avec la vision du producteur. C'est une version plus longue, plus lente, plus profonde aussi, grâce à des choix de scènes différents. La présence de la voix off qu'on a entendue, qui raconte un peu les légendes et un peu tout ce qui se passe. Et moi, c'est cette version que j'ai voulu vous faire écouter donc le début, puisque j'ai vu les deux versions quand même pour préparer l'émission. La version américaine fait plus téléfilm amélioré, si on veut. Ouais. Et la version française, c'est un vrai film, quoi. C'est juste la différence.
Très bien, merci le
Puis
doc.
Sinon, on écoutait là le groupe de Woody Allen là, qui joue de la clarinette, on entend ça. Je trouvais que c'était pas mal pour un peu de Dixieland. Par Woody Allen pour parler du cinéma.
Alors je connais pas la discographie de Woody Allen, mais j'ai trouvé la plupart de ses films dont j'ai pu entrevoir ou voir la totalité relativement chiante. Et ce jazz d'ascenseur pourrait être à l'image de ses films, mais me parle davantage que ses films. Voilà, c'était mon.
J'adore Woody Allen. On pourra en discuter.
Juste, je pense à ça. C'était pas préparé, mais comme on parle de cinéma, je vais prendre les deux minutes. Qu'il faut bien. J'ai revu récemment l'original de Bad Lieutenant, qui se passe pas à la Nouvelle-Orléans, donc du réalisateur, c'est Abel Ferrara, avec Harvey Keitel en mythique Bad Lieutenant. Ils ont fait un remake il y a quelques années, assez récemment.
Avec Nicolas Cage.
Nicolas Cage, et le sous-titre, c'est Escale à la Nouvelle-Orléans. Il y a la belle Eva Mendes. Alors moi, Bad Lieutenant et Abel Ferrara sont un peu des choses un peu cultes, peut-être comme Woody Allen pour vous, le doc. Le remake se tient. C'est plus speed, c'est plus moderne, c'est peut-être un peu plus pas choquant, mais voilà, ça s'attarde moins sur des choses qui peuvent paraître futiles et qui en même temps font cette histoire et ce film. En tout cas, je vous conseille, entre deux, c'est dit, de vous regarder et l'original et le remake et de comparer. Et puis voilà, vous pouvez toujours nous dire.
Et puis vous prenez tous les Woody Allen aussi à la médiathèque et vous les regardez.
Alors moi, j'ai vu Vicky.
Enfin, pas tous parce qu'il y en a des pourris quand même.
Barcelona, là, dernièrement, avec Scarlett Johansson et Penélope Cruz.
Javier Bardem.
Et Javier Bardem. Mis à part le fait que les deux actrices sont magnifiques, j'ai trouvé ça hyper chiant. Mais voilà, c'est personnel. Hein.
dans ces derniers, il y en a des excellents, notamment Matchpoint qui est absolument génialissime.
C'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Bon, on s'attarde pas.
J'aime bien vous laisser parler. c'est magnifique. J'aime bien les conversations que vous avez.
Bon, allez, on repart en musique avant que Guise s'endorme ou se renferme lui-même.
J'ai failli.
S'enferme lui-même.
Bon,
dans
allez,
son
ça va danser. En plus,
je vais m'enfermer là.
Toi. Tout que tu as collé. C'est bon. Tout que tu as est magnifique, hein. Allons des haricots. Hey!
Alors on était dans juste avant avec la chronique sur dans la brume électrique de Tavernier, avec le film de Tavernier, dans un bayou sombre et angoissant. Là, avec ce que vous nous avez proposé, le Mr Guise, on est dans un truc quand même un peu plus joyeux.
Ouais, Clifton Chenier, on a écouté Clifton Chenier avec le titre « Zydeco sont pas sales ». Alors Clifton Chenier, c'est un musicien de Zydeco. Alors le Zydeco, c'est un mélange de musique cadienne et créole, avec des influences de jazz, blues, etc. Donc Clifton Chenier qui jouait de l'accordéon, et qui d'ailleurs était le premier à utiliser cet instrument pour jouer du blues. Alors, il a appris très jeune à jouer de l'accordéon grâce à son père Joseph, et il jouait avec son frère Cleveland dans les bals le samedi soir. Alors, son frère Cleveland qui faisait du washboard, ce qu'on appelle de la planche à laver. C'est quoi le washboard?
Pour décrire l'image que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est un poncho en métal.
Ah oui, j'aurais dit une armure, moi.
Ouais, mais qui reprend du coup ces planches à laver que les femmes utilisent pour laver le linge. Donc avec des rainures, et quand on passe les doigts dessus avec des petits genre des dés à coudre, quoi, ça fait ce son particulier.
Et donc voilà, ouais, Clifton Chenier, hein, qui a travaillé dans les cannes à sucre et dans sa jeunesse, hein, donc moi ça me fait penser à ça, à la canne à sucre.
Un vrai gars du bayou.
On peut juste rappeler du coup que le Zydeco, ce style de musique, tire son nom exactement de cette chanson-là, puisqu'en fait c'est un standard au départ qui s'appelle « Haricots sont pas salés », donc les haricots sont pas salés.
« sont pas sales » moi, bon moi ouais. C'est « sont pas salés ».
Donc c'est devenu « haricots » comme style de musique pour les Cadiens français, et pour les Cajuns américains c'est devenu le Zydeco.
C'est quoi la différence entre les Cadiens et les Cajuns?
Il n'y a pas de différence, c'est le nom américain et le nom francophone, si on veut.
Tout simplement parce que c'est quand même une des singularités, une des particularités de cette culture autour de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans et de tout le bayou.
C'est tous ces déplacés en fait francophones. Alors, qui ont été déplacés finalement du Canada. Ouais. C'est des francophones du Canada qui ont été déplacés en Louisiane, expulsés en fait, et qui se sont installés là. Ouais.
Très bien, merci pour cette parenthèse
heureusement qu'il
historique.
Est là,
hein. Oui, mais on l'appelle pas le doc pour rien.
Bah oui, voilà, tout à fait.
On repart en musique tout de suite dans le Mixture. 18h30, on est là encore pendant une heure jusqu'à 19h30. Et voilà, on vous parle de la Nouvelle-Orléans, de cette culture, j'ai envie de dire presque franco-américaine.
Mais c'est marrant, moi je trouve vraiment que c'est un peu notre musique à nous qui aurait voyagé aux États-Unis et qui nous revient un peu différente, un peu étrange.
Qui s'est métissée évidemment avec la culture américaine et anglo-saxonne, mais aussi avec la culture créole et africaine, afro-américaine. Et aussi, alors là on l'entendra pas forcément beaucoup dans cette émission, mais avec la culture hispanique, puisque pendant un moment de l'histoire, la Louisiane était en partie, tout au moins, en partie hispanique.
Et avec les Indiens, bien sûr.
Et évidemment, les primos habitants, les Amérindiens, les Séminoles notamment. Enfin voilà, on vous donne beaucoup d'infos, mais parce que ça nous fait plaisir et que c'est une de ces villes un peu mythiques des États-Unis qui fait, en tout cas, moi, qui me fait rêver. On repart en musique avant que... On vous
souhaite qu'on continue.
I don't want lots of money. Riches can't make my dreams come true. Take my house and sell it. I won't regret it. Honey, I just want you. I don't care for no love songs, 'cause they only make me blue. Why did we break up? Oh, come on, let's make up. Honey, I just want you. The things we planned together, but I can't help hoping I'll win you back somehow. All the places I go to, I see all the friends that
we once knew. I smile and tell them hello, but they just laugh cause they all know, honey, I just want you. Oh, honey, I just want you.
Qu'était-ce donc?
Non mais moi je veux ma virgule avant.
Ah oui, alors attendez, bah
ouais, vous... parce que vous allez l'oublier.
Vous allez...
Mais une bien pourrie.
Ouais, très bien.
Il réclame, t'en mets une pourrie.
Tiens.
Mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi.
Ah, j'aime beaucoup.
À la fois les fascistes et les fanatiques. Merci.
Monsieur Habitbol.
Merci, monsieur Habitbol.
Ah oui, on a écouté Bobby Charles avec le titre I Just Want You. Alors Bobby Charles qui est mort il n'y a pas très longtemps, le 14 janvier 2010. Alors c'est un auteur, compositeur, interprète américain de rock and blues qui est cadien de naissance justement. Il a grandi en écoutant de la musique cadienne et de la musique country et western de Hank Williams. À 15 ans, il entend le morceau Going Home de Fats Domino à la radio, expérience qui viendra changer sa vie à jamais. Charles a contribué à développer un genre musical qui sera connu comme le Swamp Rock ou Rock du Bayou. Donc voilà, il est compositeur des succès See You Later, Alligator ou Walking to New Orleans, écrit pour Fats Domino justement. Et il est décédé dans sa demeure près d'Abbeville le 14 janvier 2010. Un grand monsieur.
Mais ça arrive de mourir. Hein. Ça
bah
arrive,
oui,
ça arrive
bon.
Même au meilleur.
Bah, et même au pire.
Comme oui, nous, peut-être un jour.
Ben oui, peut-être.
Ouais, bah, sûrement.
Pas sûr, hein, pas sûr.
Vous êtes sûr?
Non, mais parce qu'on se conserve bien.
Moi, je ferai le Bogdanov, je vais vivre 300 ans.
Ça fait oui, un double.
Il suffit de se faire cryogéniser et envoyer au tréfonds de l'espace, et ça, peut-être qu'on on reviendra dans quelques 150 années-lumière.
Ou pas, c'est un pari sur l'avenir.
Oui, c'est ça, oui. On sait pas. Très bien, tiens, j'en profite avant de lancer le prochain morceau, puisque moi, la plupart des morceaux que j'ai choisis pour cette émission sont issus d'une compile. Alors vous allez me reprendre sur la prononciation anglaise, messieurs, je compte sur vous.
Yes.
The Rough Guide to the Music of New Orleans. New Orleans,
oui, bah c'est
New
parfait,
Orleans
c'est
d'ailleurs.
Moi,
The Rough Guide, c'est alors je sais pas si c'est un label, en tout cas il y a beaucoup de compiles qui commencent par cet intitulé-là. En général, c'est des compiles de musique du monde ou voilà, qui s'intéresse un petit peu comme le mixture du reste à des styles de musique ou à des contrées un peu exotiques ou lointaines qui font le focus voilà, sur des régions du monde. Donc là, ils en ont consacré un double album. Les 15 premiers titres du disque nous permettent de redécouvrir ou de découvrir les grands artistes de cette ville où la musique est évidemment partout. On vous en a déjà donné un petit aperçu, du jazz, les parades second line. Le blues, le rhythm and blues, le funk, la musique des îles, la musique de l'Indienne Mardi Gras, on en parlera un petit peu tout à l'heure, du rock évidemment, on en a déjà parlé avec Fats Domino notamment, tout fusionne, bouillonne et explose, on peut écouter le boogie-woogie du sorcier Dr. Jones, le groove des brass bands de Kermit Truffins notamment, Papa Grove Funk, le New Orleans Night Crawlers, et le The Hot Eight Brass Band, on va en écouter un extrait tout à l'heure choisi par le Doc. Les frères James et Troy Trombone Shorty, le Doc aussi vous en avez extrait un autre titre, pas sur cette compile là, mais voilà, c'est un peu les artistes référents qui nous embarquent notamment dans un Zulu King d'anthologie, tandis que Big Chief version live de Professor Long Hair qu'on va s'écouter dans quelques instants fait vibrer toutes les cellules de votre organisme. J'espère que ça va marcher.
C'est un chauve, non, Professeur Longuerre?
J'imagine. Non, je crois que justement il est assez hirsute.
Ah, c'est nul.
Assez chevelu. Il y a également le groove suave latino de Los Hombres Calientes. On parlait de l'influence hispanique autour de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans. Voilà, il y a Monk Bordeaux ou Jesse Hill ou Earl King encore. Et juste, je termine le second disque et quant à lui dédié au Dubstepunk. Pardon, je le n'importe
quoi. Dubstepunk.
Dubstepunk, voilà. Problème de prononciation, considéré à juste titre comme le plus grand groupe actuel de funk de la Nouvelle-Orléans. On va en écouter un extrait en toute fin d'émission. Voilà, The Rough Guide to the Music of New Orleans. Une compile, une vraie bombe d'énergie positive à écouter tous les matins au réveil. Je ne saurais vous dire mieux. On s'écoute tout de suite Professeur Long Air avec le morceau Big Shift. Je pense que c'est déjà c'est un live et je pense que c'est une référence au chef indien. Et quand on va parler du Mardi Gras indien, vous comprendrez un peu mieux cette référence au grand chef indien.
Geronimo.
Geronimo, entre autres. Alors, Geronimo, c'est pas la Nouvelle-Orléans, mais c'est un illustre grand grave. Chef. C'est un illustre grand chef. Grave. Professeur Longuerre dans le mystère.
Sitting Bull, j'en sais rien, moi.
Sitting Bull, pourquoi pas. On est content, hein. On est content. Professeur Long Air, de son vrai nom Henry Roland Bird. Voilà, avec le morceau Big Chief, on l'a dit tout à l'heure. Donc Big Chef, non?
Non, non, Chief, non, 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 Chief. Non, c'est pas pourquoi on rigole.
D'accord, bon, bah, tant mieux, marrez-vous. The Roof, Guide to the Music of New Orleans.
Là, on rigole sur votre accent.
Ouais, mais là, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Professeur Longueur, il a notamment joué avec les Meters, dont on va écouter un extrait un petit peu plus tard dans cette émission, un des grands groupes de funk soul de la Nouvelle-Orléans. Il est décédé maintenant dans les années 80, ça fait un petit moment déjà.
Encore un
qui est mort. C'était quand même une des légendes du blues de la Nouvelle-Orléans. Avec ce style de piano unique, une combinaison entre rumba, mambo, calypso, et puis cette voix quand même.
En tout cas, nous avons tous dansé. Hein.
Oui, ça faisait secouer les genoux. Il n'y avait pas une expression comme ça
Je ne sais pas.
T'as les genoux qui se touchent. Si, c'est une chanson de la Caravan Pass. Voilà, c'est ça que j'ai en tête.
D'accord, faudra la passer.
T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent.
D'accord.
Voilà.
C'est raciste.
Mais non, c'est pas raciste, absolument pas. Voilà, professeur Longueur, j'en ai pas plus à dire. Bon, on va redevenir un petit peu plus sérieux puisqu'il y a une chronique maintenant.
Je vais essayer de garder mon sérieux.
Oui, alors s'il vous plaît,
faites un effort. Fou les jetons en plus, c'est une chronique.
C'est votre chronique.
Fou les jetons.
Je vous envoie votre tapis musical et puis je vous laisse vous débrouiller hein, parce que vous êtes grand. Vous êtes sorti du donjon seul, sans les clés, donc vous êtes capable.
On parlait de légende de blues.
Non, faut pas que je monte, c'est vrai.
Oui, voilà. On parlait de légende de blues ou légende de jazz, et ben il y a aussi d'autres légendes. À la Nouvelle-Orléans. Déjà, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la capitale mondiale des vampires. Ça fait peur.
Alors, moi, je croyais que c'était en Roumanie, dans les Carpates.
Eh ben non. À la Nouvelle-Orléans, les vampires sont devenus une véritable légende. À l'origine de ce phénomène, l'histoire du célèbre comte de Saint-Germain. Alors, il faut revenir quand même à l'origine. On revient en France dans les années 1700 avec un homme mystérieux qui avait charmé les cours d'Europe. Son nom, donc, le comte de Saint-Germain. Étrange, extraordinaire, énigmatique, c'était un maître du piano et du violon. Il parlait 6 langues différentes. Son talent de causeur était incomparable, sa richesse inestimable. Personne d'ailleurs ne savait comment il se l'était procuré. Personne ne savait rien de sa famille, d'où il venait, ni qui il était. Une de ses plus grandes passions était l'alchimie.
Ça fait flipper, hein, quand même.
Obscure science.
On disait de lui qu'il ne vieillissait pas, sans doute à cause de sa vaste connaissance des produits cosmétiques et des herbes. Le philosophe Voltaire, parce qu'il a connu Voltaire quand même, hein, l'avait appelé l'homme qui sait tout et qui ne meurt jamais. On ne connaît pas non plus son âge, hein. On dit qu'il avait approximativement la quarantaine, et personne ne l'avait vu manger quoi que ce soit, à part siroter du vin.
Ah.
On dit qu'il connaît des comme ça.
Ça voilà. Conserve, hein.
On dit qu'il est mort en 1784 après avoir côtoyé la haute société avec entre autres Marie-Antoinette, Louis XV et même Casanova. Retour rapide donc à la Nouvelle-Orléans dans les années 1920, dans la ville du jazz. Apparaît un homme du nom de Jacques Saint-Germain qui correspond tout à fait à la description du comte précédemment cité. Environ 40 ans, des sacs d'argent lourd, côtoyant une certaine classe de la société, encore un mystère complet sur ses origines. Il organisait des fêtes somptueuses et invitait toute l'élite de la Nouvelle-Orléans. Et assez curieusement, ce Jacques n'aurait jamais été vu en train de manger un morceau ou mais seulement siroter du vin. Une nuit, il y a une fille, hein, tout le temps, il faut tout le temps qu'il y ait une fille. Hein, on va imaginer qu'elle est blonde.
C'est mieux. Hein.
Ouais, blonde à forte poitrine. Blonde à forte poitrine, on va imaginer.
De surcroît.
Qui est un petit peu retard et puis qui reste sur le balcon. Et Saint-Germain arrive, l'attrape et il tente de la mordre au cou. Alors donc forcément, cette jeune fille qui est, on va dire, elle arrive à s'échapper. Et donc, elle signale l'incident à la police. Et quand la police arrive, Jacques Saint-Germain, il a complètement disparu, ce monsieur. Où est-ce qu'il peut être? Je vous fais flipper avec mes...
J'en peux plus, je suis à deux doigts de me barrer.
Donc la police fouille son appartement. Alors, il trouve quand même certaines nappes, avec des nappes justement, avec des taches de sang dessus.
Non,
c'est un peu bizarre.
C'est du vin, tout le monde le sait.
Il fouille la cuisine, aucun signe de nourriture, et aucun signe comme quoi il y a pu avoir des aliments qui aient pu être entreposés.
Est-ce qu'il y avait des bébés congelés dans
Les
congélateurs n'existaient pas à l'époque.
C'est pas la même légende.
Ce qu'ils ont trouvé, c'est des bouteilles de vin.
Ah.
Et après s'être versé un verre, faut savoir que les policiers à l'époque aimaient bien siroter.
À l'époque, ça n'a pas trop changé, on va dire.
Mais bon, à l'époque. Après s'être versé un verre et puis l'avoir bu, bah les autorités se sont rendues compte qu'il n'y avait pas que seulement du vin dans ces bouteilles, mais qu'il y avait aussi du sang humain qui était mélangé avec le vin. Voilà, d'où vient
la légende. Comment ils ont su que c'était du sang humain? Ils ont goûté?
J'en sais rien.
Ils ont comparé, sûrement.
Oui, les experts.
Les experts des années 20.
Les experts,
des années 20. Pas mal. Donc voilà.
D'accord. Donc, okay. Jacques de Saint-Germain.
Alors, c'était le comte de Saint-Germain qui est apparu dans les années 1700 en France et qu'on a retrouvé 1920, qui se faisait appeler le Jacques de Saint-Germain.
Bon, si vous le connaissez, faites-nous signe. On ira enquêter.
Mais à mon avis, sa prochaine réincarnation, c'est que dans deux siècles, si on suit cette logique.
Bon, on sera là, on l'attend.
Oui.
Alors, je tenais à vous faire noter que ce qu'on écoute derrière ça, c'est tiré d'un film qui s'appelle Entretien avec un vampire, qui se passe en Nouvelle-Orléans.
Avec Tom Cruise.
Film tiré d'un bouquin d'Anne Rice. Et d'ailleurs, c'est Tom Cruise, Lestat, qui joue du piano.
Plutôt pas mal d'ailleurs comme film. Ouais.
Bien flippant.
Un peu long.
Hyper long.
Très bon. Ouais.
Bon. Mais moi, je.
Bah, Woody Allen, on trouve ça long.
C'était sûr, je pensais à la même chose que vous, Guise. Bon, d'accord, on repart en musique parce que sinon, c'est nous qui allons être longs. On en est où? Ah, voilà, là, on va écouter un truc, j'imagine, un peu péchu. Le doc, c'est vous qui l'avez sélectionné.
Mm-hmm. Que voulez-vous savoir?
Pas tout de suite, mais juste si vous pouvez me dire que c'est un peu péchu ou pas.
Je crois que oui. Hein.
Ah, vous croyez?
C'est un peu une fanfare, donc oui, d'accord. C'est péchu.
Un des nombreux brass bands qui. Parsem, Clay, et Gay font vivre cette Nouvelle-Orléans. Voilà.
ça danse dans le mixture aujourd'hui.
Eh ouais, ça c'est un standard, ça. Ça c'est hyper connu.
Tout à fait, mais qui est donc Ghost Town.
Vous êtes aussi bon que moi en anglais maintenant,
Ghost
je le
Town,
sais.
Ghost Town, qui est repris par le Hot Ace Brass Band, un orchestre de cuivre de la Nouvelle-Orléans créé en 95, qui mélange jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans avec des titres funk, rock, soul et hip-hop. Donc ils interprètent ici Ghost Town, la chanson des Specials, le groupe de ska anglais des années 80, magnifique. Voilà, en arpentant les rues fantomatiques de la ville dévastée par Katrina. Donc le titre prend un nouveau sens,
ouais,
dans ces circonstances-là, puisque bon, les paroles, c'est « Est-ce que tu te rappelles de ces bons vieux endroits avant que ce soit une ville fantôme ?» Voilà, c'est un groupe très engagé, qui est notamment allé jouer auprès des populations déplacées, pour les soutenir, leur redonner le moral. Parce que quand on voit les images, c'était quand même une catastrophe énorme.
Il y a des pour avoir lu, certaines interviews, certains articles, il y a des gens qui ne sont toujours pas rentrés à la Nouvelle-Orléans alors qu'ils vivaient là depuis des années. Il y a des gens qui ont mis un an et demi, deux ans, trois ans peut-être depuis l'ouragan. C'était peut-être pas il y a trois ans d'ailleurs, mais en tout cas qu'on.
C'est 2005, je crois, non, par là.
Ouais, mais il faut surtout parler aussi qu'il y avait une centrale, enfin pétrolière ou quelque chose comme ça qui avait explosé. Totalement.
C'était après, c'était BP dans le golfe du Mexique,
qui avait totalement détruit le bayou de Louisiane, et c'est la Louisiane malheureusement morfle beaucoup.
Mais oui, il faut dire que climatiquement, géographiquement parlant, c'est quand même mal situé entre guillemets, puisque c'est donc dans ce golfe du Mexique et qui est où se créent de nombreux ouragans, pardon, tous les ans, tous les ans, vous vous foutez de moi.
Non, je pensais à Alain Gilles Lopétré qui est... C'est pas grave.
Paix à son âme, exactement. On repart en musique avec les... Non, je le dis pas, si je peux le dire. Je peux le dire, monsieur Guise.
Vous pouvez y aller.
On l'a déjà cité, c'est les Meters. The Meters, un des gros groupes de funk de la Nouvelle-Orléans.
C'est bon, vous avez fait ma présentation.
Voilà.
Très bien.
Mais tant mieux. We'll be right back. Qu'était-ce? On l'a déjà dit, c'est vrai.
C'était The Meters, groupe de funk américain des années 60-70, originaire forcément de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Donc le titre, c'était Luca Papai.
Ouais, Luca t'as un look de papaye.
Voilà, c'est regarde le regard de papaye.
Très bien, moi je vous en parle tout de suite de ce qu'on va écouter maintenant tout de suite. Kermit Ruffins, et donc là c'est avec son brass band. Le morceau s'appelle Trémé Mardi Gras, puisque juste après on va vous parler du quartier Trémé et de la série qui a été notamment diffusée sur France O. Mais Kermit Ruffins, donc le Trémé Mardi Gras, c'est issu de son album qui s'appelle Living a Trémé Life, qui était sorti en 2009, me semble-t-il. Moi, par contre, je l'ai trouvé sur la compile, la fameuse compile dont je vous parlais tout à l'heure, The Roof Guide to the Music of New Orleans. Voilà, ça va, je m'en sors. Hein, chaque fois que je me retourne vers vous après l'avoir lu.
Mais j'en sais rien, moi, comment on dit ça en plus.
Vous avez ce sourire en coin. Voilà, c'est un trompettiste et chanteur de jazz. Il a notamment évidemment été influencé par Louis Armstrong, mais quand on dit ça, on peut dire que tous les musiciens noirs ou pas d'ailleurs de la Nouvelle-Orléans et d'ailleurs ont été influencés par Louis Armstrong. Je pense qu'un grand monsieur comme ça, ça vous influence forcément. À noter que en 2010, lors de la série justement la série Trémé qui se tournait donc juste après Katrina, il incarne son propre rôle, le Kermit Ruffins. On s'écoute ça, Kermit Ruffins avec Trémé Mardi Gras.
By the tuba that we got a new hit. Now it's Mardi Gras morning and we down in Trémé. If you a scary mother lover, ride with me, smoke weed with me, get high with me, break a 40 with me, monkey shine with me. Behind that second line beat, you might die with me. So put your hands in the air and get high for me. The baby dolls all coming in the skeletons too. I gotta tell you, baby girl, they be acting a fool. It's so hot, they don't treat me, I wanna jump in the pool. Take it under the bridge if you wanna be cool. If you wanna catch your boy on my de grande, on Basin Street and Robinson, the heart of Treme. With the U-Haul trunk parked up the one way, with my trumpet in my hand watching Zulu Parade. Now that's the way we do it, come my de grande. So throw us something, miss, and she might show you her play. It's the old man smoking, watch out, I'm here to stay. The Treme Mardi Gras will blow you away.
Mardi Gras in the Treme.
Kermit Ruffins avec Treme Mardi Gras. Le Mardi Gras ou le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Donc c'est ça se passe tous les ans au moment du carême. Donc c'est à partir du 6 janvier, au moment où chez nous en France on tire les rois. Ça se passe à ce moment-là dans l'année.
Ou les reines.
Ou les reines, oui. Oui, bon, d'accord, très bien, ça commence.
Bravo.
Je vais essayer de continuer à vous parler un petit peu, mais je vois que...
Il enfin, y a un lien.
Monsieur Guise ne m'aide pas beaucoup. Et en fait, il y a une expression, une chose importante dans la tradition de la Nouvelle-Orléans, c'est les Indiens de Mardi Gras, qui sont en fait les Afro-Américains, qui célèbrent donc au moment de ce carnaval. Donc c'est dans cette tradition des brass bands aussi, des fanfares, voilà, de ce gros moment de fête à la Nouvelle-Orléans qui a lieu tous les ans. Ils ont repris, comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, les codes cérémoniels des Indiens d'Amérique, les Amérindiens, notamment des Séminoles, mais d'autres tribus qu'il y avait en Louisiane.
Un peu mélangé aussi, puisque tu avais tous les nègres marrons, les esclaves en fuite qui partaient dans le bayou et qui rencontraient les Amérindiens. Et ça a notamment donné la naissance de la tribu des Séminoles noirs.
Ouais.
Donc il y avait un vrai mélange.
Il y avait un vrai mélange et qui a eu lieu par cette présence au même endroit géographiquement, mais aussi en réponse à la lutte, enfin à la lutte, à la ségrégation, et c'était une forme de réponse puisque la Louisiane est un de ces nombreux États du Sud esclavagistes et racistes des États-Unis d'Amérique. Et donc pour répondre à cette ségrégation, les Indiens et les Afro-Américains se sont pas métissés, mais en tout cas ont fait cause commune et ont envie symboliquement de lutter contre cette ségrégation en fêtant notamment ce Mardi Gras. On le voit dans la série Treme justement, dont j'avais envie de vous parler, les Amérindiens avec leurs costumes traditionnel de chef et tout ça, tous ces codes de cérémonie amérindienne ont été repris par les Afro-Américains, et donc on voit dans la série, lors des cérémonies du Mardi Gras, des gens qui descendent dans la rue costumés avec des grandes coiffes indiennes, là, vous voyez un peu le sitting bull ou enfin voilà ce grand chapeau mais multicolore, donc c'est un peu comme si donc sitting bull avait rencontré je sais pas un punk avec une crête violette, enfin il y a ce côté-là un peu déluré, un peu freestyle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Mardi Gras indien.
Je crois que monsieur veut rajouter quelque chose.
Alors il y a des choses, moi aussi j'ai des choses à rajouter maintenant que vous le dites, mais je vous en prie.
Alors il y a une tradition quand même pour montrer le Mardi Gras, pas forcément indien, mais le Mardi Gras néo-orléanais. Mm-hmm. Je sais pas, vous vouliez peut-être que j'en parle. Vous m'avez dit que vous vouliez pas en parler, vous vouliez me laisser en parler.
Ah ben je vous en prie.
Alors il y a une tradition au carnaval à Nouvelle-Orléans qui est beaucoup plus suivie par les touristes plutôt que les habitants de la Nouvelle-Orléans, à savoir que les femmes doivent obtenir des colliers. Les colliers sont tenus par les hommes et si un homme met un collier autour du cou d'une femme, elle doit montrer sa généreuse poitrine.
Voilà, voilà.
Très bien. Alors, moi, je voulais juste reprendre deux, trois...
Ça vous fait rire.
Non,
mais pas du tout.
C'est à peine
sexiste. Mais c'est pas sexiste. Ça fait partie de la culture néo-orléanaise.
Qui peut être sexiste, par ailleurs.
Oui, mais bon.
Dans
c'est
cette idée
sympa.
De carnaval à la Nouvelle-Orléans, du Mardi Gras indien, il y a quelques noms de gangs assez célèbres. Les Black Seminoles, les Burning Spears, oui. Le même nom que le chanteur de reggae. Il y a aussi les Gardiens de la Flamme. Et justement, dans la série Trémé, un des personnages reprend un petit peu. En fait, il s'est inspiré du chef de ce gang-là, des Gardiens de la Flamme. Il a repris tout son costume de cérémonie, etc. Donc la série Trémé, tout simplement pour faire court, c'est fait par David Simon, qui a fait The Wire, exactement. Également, pardon. The Wire, ça se passe à Baltimore. Et c'est en gros une lutte de pouvoir entre les gangs de Baltimore, les trafiquants de drogue et les hommes politiques. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'au final, ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Exactement. Les intérêts sont communs. Donc il y a cette dimension politique qu'on retrouve à Baltimore, dans les quartiers de Baltimore, dans The Wire, et qu'on retrouve également dans Trémé, puisque ça se passe après l'ouragan Katrina. Et en gros, l'histoire tourne autour de 5, 6, peut-être 7 personnages centraux qui ont tous un vécu. Il y en a justement un qui est chef indien du Mardi Gras, d'un des gangs. Il y en a un qui tient un bar. Il y a des musiciens trombonistes sans le sou. Ce qui est intéressant, c'est que David Simon a gardé un peu la même clique d'acteurs, à qui il leur fait jouer évidemment des rôles différents, mais on retrouve certaines similitudes avec The Wire. Et en fait, ça amène vraiment un regard sur ce quartier Trémé. Donc pour en dire deux mots, c'était le premier quartier afro-américain non esclave des États-Unis d'Amérique. Ça a été le premier quartier qui n'était pas aux mains de blancs esclavagistes. C'était les gens vivaient dans une forme d'auto-décision. Enfin, je sais plus comment on dit, mais voilà. Et après Katrina, tous les gens, on en parlait tout à l'heure, ont dû fuir, ou en tout cas une bonne partie, et sont revenus petit à petit pour reconstruire la vie. Et donc la série, qui est évidemment une fiction, mais qui est criante de vérité, reprend et montre ces personnes qui en gros galèrent et font ce qu'elles peuvent pour d'un côté reconstruire leur vie individuelle, mais aussi collectif, puisqu'ils défendent. Il y a notamment un monsieur qui vient taper régulièrement via des vidéos qui sont diffusées sur YouTube ou sur Internet, des vidéos pour dénoncer l'inaction des pouvoirs américains, notamment de l'armée. Puisque pour la petite histoire, ça je l'ai lu en préparant un peu cette émission, Cuba et le Canada ont été les premiers à réagir suite à l'ouragan, avant même l'armée américaine.
Et en fait, décision de George Bush,
mais aussi c'est ce que dit un des acteurs qui joue dans Trémé, c'est le reflet en fait de la considération qu'on a pour la Louisiane et notamment pour la Nouvelle-Orléans, qui a été cédée. Alors exactement, je vais vous donner la date puisque je l'ai normalement sous les yeux, je la retrouve pas, mais je crois que c'est 1803 par la Louisiane appartenait encore à la France. Et elle est cédée par Napoléon pour quelque chose comme 15 ou 30 millions de...
On peut dire l'euro symbolique.
Voilà. En gros, ça valait rien du tout. Et donc, cette inaction, cette inertie négative du pouvoir américain, de l'armée américaine, pour venir au secours de la population et des habitants de Katrina, elle vient aussi de là, de choses qui se sont passées il y a plus de 2 siècles. Voilà, je sais pas si je vous ai donné très envie de regarder la série Trémé, mais en tout cas, je vous encourage fortement. Si
au moins pour la musique, si vous aimez ce qu'on passe ce soir, regardez la série.
Au moins pour la musique et voilà, pour en apprendre un peu plus sur la survie en milieu urbain, en territoire hostile, j'ai envie de dire. On repart en musique tout de suite avec justement le thème The Trémé Song qui sert de générique à cette série. C'est John Boutet, j'en dirai pas plus. Avec Tremé Song, issu de son album qui était sorti en 2003, Jambalaya, et donc qui fait office de générique pour cette série Tremé dont je viens de vous parler. Et à l'instar de Longuerre, dont on a parlé tout à l'heure, il incarne son propre rôle dans la série. Donc il y a cet aller-retour entre acteurs professionnels et musiciens professionnels qui incarnent leur propre rôle dans cette série. On enchaîne tout de suite avec un autre groupe mythique. De la Nouvelle-Orléans, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Trombone Shorty, on en parle
musicien
maintenant.
Musicien mythique, non, Lance, vas-y.
C'est parti.
Bye.
C'était énorme.
J'adore ça. Trombone Shorty, le titre s'appelle Back at Town. Sur l'album du même nom en 2010, en fait, il s'appelle Troy Andrews. C'est un tromboniste qui a grandi dans le quartier de Trémé, dont on parlait juste à l'instant, qui mélange le rap, le funk, le jazz. Son surnom viendrait du fait qu'il a commencé très jeune à jouer dans les fanfares, à peu près à l'âge de 6 ans. Donc il est resté le petit trombone.
Il ne devait pas dépasser, on ne devait pas le voir.
Son trombone devait être plus grand que lui.
Ouais, ça devait être ça. Ça devait être ça.
On peut signaler qu'il a créé une fondation qui est destinée à préserver l'héritage musical de la Nouvelle-Orléans en offrant aux écoles des instruments pour les enfants. Donc pour permettre à ces brass bands de continuer à exister simplement.
C'est un gars bien, c'est précieux.
J'ai l'impression que c'est une ville qui suscite un peu ça, puisque pas mal de groupes dont on a parlé ont créé des choses, essayent de s'impliquer pour leur ville, et je pense que ça tient vraiment à l'histoire de cette ville.
Je pense que ce dont on parlait également tout à l'heure, il y a ce lien culturel privilégié entre différentes communautés, différentes influences, qu'ont su créer une culture à part. C'est peut-être aussi pour ça que le reste des États-Unis, sans dire qu'ils les jalousent ou les envient, les considèrent un petit peu de façon différente. C'est parce qu'ils ont su tirer profit de ces nombreuses influences françaises, espagnoles, africaines, créoles, amérindiennes, et créer une culture et une ville singulière. Enfin, une ville et toute une région, puisqu'on là on parle essentiellement de la Nouvelle-Orléans, mais il y a tout ce bayou, Bâton Rouge à quelques kilomètres au-dessus. Enfin voilà, toutes ces petites villes, tous ces hameaux et villages. On continue avec, je vais avoir du mal à le dire, Dumpsta Funk, un des groupes actuels de funk de la Nouvelle-Orléans. C'est énorme, ça s'appelle Check It Off, et voilà, c'est juste énorme, je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le redire.
Of a beautiful day, how quick things turn around. Made some grits and eggs, took a shower shave, about to make a run downtown. Got in my ride, ready for the world, cruising around. Damn, look at that girl, music bumping, driving fast. Don't waste your time and energy. Yeah. Doesn't matter what will be shame. Just remember to mind your P's and Q's. Everybody got to pay their dues. Shame. You got to shake it off. Don't let them haters piss you off. Shame. We just need some space to breathe. Took off the 4X, white tee. Walked in the door. They say, oh boy, you got an ID.
Who, me?
Officer went to the back. Two came back to the front. Threw me up against the wall. Put me in handcuffs.
Oh, don't waste man. Your time and energy.
It doesn't matter what will be. Shame. Just remember to mind your P's and Q's. Everybody got to pay their dues.
Now you got to shake it off.
Don't let them haters piss you off. Shake. We just need some space to breathe. Back up, give me 2 minutes. Shake it off. We'll be right back.
some space and breathe.
Back up, give me this beat. Shake it off. Shake it off.
Waste your time and energy. It doesn't matter what will be, will be.
Shake.
Just remember to mind your P's and Q's.
Everybody constipated.
Dumpsta Funk, Shake It Off, on vous avait dit que c'était une vraie tuerie, un truc énorme. Voilà, on va se quitter là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine évidemment à 18h jusqu'à 19h30. On remontera le fleuve Mississippi, voilà, pour...
à la nage.
À la nage, ou en bateau à vapeur, ou à la rame, ou voilà.
Comme Tom Sawyer.
En deltaplane. En tout cas, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Awa. Awa fait ça R&B. Et puis après, à partir de 20h30, ce sera une rediff de Monsieur Raguse et Monsieur Jean-Mi. It's time, évidemment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on l'a déjà dit.
À peu près au même endroit.
À peu près à la même heure.
Voilà.
À peu près en musique aussi.
Et dans le même état.
Non, on sera meilleur.
Si ce n'est pire.
On sera toujours meilleur. Allez, Awa fait ça R&B. Ciao.